Voilà, c'est une belle prière qu'on vient de chanter. Hein. Elle a été écrite il y a très longtemps par François d'Assise. Et c'est des paroles qu'on n'a pas fini de méditer toute notre vie. Hein. Et ce matin, je voudrais nous emmener dans la fin de la prédication sur le Notre Père. Donc on va reprendre le texte encore une fois, qu'on a déjà lu plusieurs fois. Hein. Donc c'est Matthieu au chapitre 6. C'est Jésus qui dit à ses disciples, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne, que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. » Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous le faisons pour nos débiteurs. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve ou dans la tentation, hein, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui, on va regarder de plus près la fin de cette prière, donc ce qu'on appelle la doxologie, la phrase finale, hein, « C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. » Alors, cette phrase n'est pas présente dans toutes les Bibles. Et là, j'ai été surprise en ouvrant celle-là qu'elle n'est pas présente dans celle-là, justement, parce qu'elle n'est pas présente dans tous les manuscrits anciens. On pense que c'est une phrase qui a été rajoutée plus tard, par la tradition de l'Église, mais une tradition quand même très très ancienne. Et c'était quand même une tradition aussi chez les Juifs. On retrouve beaucoup de phrases de ce genre dans l'Ancien Testament. Donc doxologie, ça veut dire qu'on reconnaît la gloire de Dieu. C'est une façon d'affirmer solennellement la gloire de Dieu, hein, de lui donner gloire, quoi. Voilà. Alors on en trouve à la fin de chacun des cinq livres qui composent le livre des psaumes. Et on en trouve aussi dans le Nouveau Testament. Alors, je vous en ai pris quelques-uns, quelques exemples. Éphésiens 3, les versets 20 à 21. « À celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, à tout jamais. Amen. » Ou bien aussi dans 1 Timothée chapitre 1 verset 17, on lit « Au roi éternel, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire à tout jamais. » Et enfin dans Romains 16 verset 27, « À Dieu, seul sage, la gloire par Jésus-Christ pour toujours. Amen. » Alors, si tu peux me réafficher le texte du Notre Père, on voit que les trois termes qui sont employés là dans cette doxologie, donc c'est « à toi la gloire »,« à toi le règne », »,« à toi la puissance », on peut les faire correspondre aux trois termes qui étaient utilisés au début de la prière, quand on dit « que ton nom soit sanctifié », on peut faire correspondre « à toi la gloire ». Quand on dit « que ton règne vienne », on fait correspondre à toi le règne. Quand on dit que ta volonté soit faite, on fait correspondre à toi la puissance. Dieu a la puissance de faire sa volonté. Hein. Donc en fait, il y a une symétrie dans la prière. On a commencé par lever les yeux vers Dieu en demandant que son règne vienne, que sa volonté advienne. Ensuite, on lui a exposé nos demandes. On a dit « donne-nous le pain, pardonne-nous, délivre-nous du mal ». Et finalement, on lève de nouveau les yeux vers ce Dieu qui nous dépasse tant et on lui affirme. Alors, ce qu'on a demandé au début, on l'affirme que c'est en son pouvoir, c'est lui qui a ces choses, c'est lui qui a la gloire, le règne, etc. En fait, on comprend que plus nous comprenons qui est Dieu et quelle est sa grandeur, plus nous aurons confiance en lui pour l'exaucement de nos prières. Alors maintenant, on va prendre chacun de ces trois termes l'un après l'autre pour les regarder de plus près. Donc le premier, c'est « à toi le règne ». Alors, je ne sais pas si vous connaissez le livre du Petit Prince de Saint-Exupéry. Donc, le Petit Prince, il voyage de planète en planète et dans chaque planète, il rencontre des personnages différents. Et sur une planète, il rencontre un roi. Mais ce roi est tout seul. Il est isolé dans son coin. Il n'a personne sur qui régner. Et quand le Petit Prince vient, il est tout content. Il dit « Ah, voilà un sujet !» Et donc, il veut lui donner des ordres. Et au moment où le Petit Prince veut partir, il lui dit « Ah, mais tu ne dois pas partir sans m'avoir demandé !» Alors le Petit Prince lui dit « Mais j'aimerais bien partir. Alors je t'ordonne de partir !» Et puis, il explique aussi que tous les soirs, il ordonne au soleil de se coucher. Des choses comme ça. Et il y a des gens qui voient Dieu un peu comme ça. Ils pensent que Dieu, il est tout seul dans son coin et qu'il n'a aucun pouvoir en réalité et que c'est un peu un roi fantoche. Il suffit de lire un peu la Bible pour se rendre compte qu'il n'en est rien. Dieu est roi par essence. Ça veut dire que c'est en lui. Il n'a pas été élu, ni choisi, ni couronné par qui que ce soit. Son règne est éternel, absolu. Il a tout créé, tout lui appartient. Que ce soit le monde visible ou comme le monde invisible, ils sont tous soumis à sa domination. Par exemple, le psaume 93, les versets 1 et 2 nous disent « C'est le Seigneur qui est roi, il est revêtu de majesté. Le Seigneur est revêtu, il se ceint de force. Aussi, le monde est ferme. » Il ne vacille pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Depuis toujours, tu es. Tu existes, tu es là. Alors, ne pas reconnaître l'autorité de Dieu, ou bien dire qu'il n'existe pas, c'est vraiment une folie. Proverbe 9, 10 nous dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » C'est vraiment le début de la compréhension des choses, c'est de reconnaître cette autorité au-dessus de nous. Il y a aussi des gens qui admettent qu'il est là, hein, c'est un créateur, ok, il est peut-être souverain, mais il ne lui donne pas l'autorité sur leur propre vie. Et ça, c'est aussi une incohérence. Il y a des gens qui disent, ok, Dieu, il est peut-être là, mais pour moi, il n'a rien fait. Je n'ai pas remarqué ce qu'il fait pour moi. J'ai prié pour que ma grand-mère ne meure pas, elle est morte quand même, donc pourquoi je devrais obéir à ce Dieu qui ne s'occupe pas de moi ? Alors si tu n'as pas que reconnu Dieu comme roi de ta vie, un jour tu devras tout de même plier le genou devant lui. La Bible nous dit qu'un jour tout le monde reconnaîtra cette autorité et avec joie ou avec effroi, il sera obligé de s'agenouiller devant lui. Mais Dieu nous fait un cadeau extraordinaire. Ce que Pierre-André a expliqué tout à l'heure, Dieu le roi nous offre de devenir ses enfants. Il nous offre de devenir notre Père à travers son Fils Jésus qui a payé notre dette, qui s'est offert en sacrifice à notre place pour que nos fautes soient expiées et que nous puissions être agréés par Dieu. Et Dieu appelle chacun à accepter son offre. Alors si Dieu n'est pas encore roi de ta vie, si Jésus n'est pas encore ton sauveur, n'attends plus, viens à lui, reçois le salut et deviens enfant du roi. Quand on est dans cette identité-là, dans cette assurance-là, de connaître ce Dieu, de savoir qu'on est soumis à son autorité, on peut aussi mieux démasquer les autres fausses autorités, nos idoles, nos faux dieux, nos addictions, nos attachements à des personnes qui sont pas bonnes pour nous. Des fois, on dit qu'il y a des gens qui sont toxiques. Des fois, il y a des gens, il vaut mieux les éviter parce qu'ils ne nous font pas du bien. Des gens qui veulent mettre la main sur nous, qui veulent nous régner sur nous en maître. Ésaïe 45, les versets 5 à 6, c'est une parole de Dieu qui est adressée à un roi païen que Dieu va utiliser, donc c'est Cyrus, Dieu va l'utiliser pour faire revenir Israël de l'exil. Donc Cyrus, il ne connaît pas Dieu, et pourtant Dieu va l'utiliser, parce qu'il il peut utiliser quelqu'un qui ne le connaît pas pour faire son travail. Et voilà ce que Dieu dit à Cyrus. « Je suis le Seigneur, et il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai préparé au combat sans que tu me connaisses. » afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. Je suis le Seigneur, et il n'y en a pas d'autre. » Le deuxième terme, c'est celui de puissance. En grec, c'est le mot dynamis, donc qui nous fait penser à dynamique, à dynamite, enfin voilà, quelque chose d'explosif, de fort. Hein. Dieu se présente à Abraham en Genèse 17:1 en lui disant : « Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Le Dieu tout-puissant, ça veut dire que rien ne lui est impossible. Le spectacle de la nature nous donne un aperçu de cette toute-puissance. Une éruption volcanique, un tremblement de terre, un tsunami, un ouragan, mais aussi l'explosion de vie que nous voyons au printemps à travers les fleurs qui s'épanouissent, les plantes qui poussent avec vigueur en sortant de la terre, les paysages de montagne qui nous coupent le souffle. La Bible nous rapporte aussi des épisodes de la manière dont Dieu est intervenu avec puissance en faveur de son peuple. Alors on pense à la traversée de la mer des roseaux avec Moïse, au feu descendu sur le sacrifice d'Élie lors de son défi contre les 450 prophètes de Baal. Mais on pense aussi au miracle accompli par Jésus, comme les guérisons, la multiplication des pains, et jusqu'au miracle ultime, sa propre résurrection, qui signait la victoire sur la mort. Alors, ces manifestations de puissance ne sont pas, malheureusement pas notre ordinaire. Combien nous aimerions parfois que Dieu intervienne avec puissance contre nos ennemis ou ceux qui commettent l'injustice. On aimerait que tout le monde se convertisse, que nos prières soient exaucées instantanément, que tous les malades soient guéris, que la puissance de Dieu soit évidente. La Bible nous promet qu'un jour, ce sera le cas. Et alors un grand effroi saisira tous ceux qui auront cru pouvoir se passer de Dieu. Mais pour l'instant, c'est encore le temps de la grâce, de la patience de Dieu. Les méchants ne sont pas punis de manière évidente. Et on peut se demander, comme les moqueurs dans 2 Pierre 3:4, où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères se sont endormis dans la mort, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Il y a aussi la parabole du blé et de l'ivraie en Matthieu 13, les versets 24 à 30, qui nous parle de ces deux plantes qui poussent ensemble. Et c'est seulement à la fin des temps que Dieu va faire le tri. Donc pour l'instant, le mal, le bien cohabitent. Et ce n'est pas évident de reconnaître la puissance de Dieu là-dedans. Pour autant, cela veut-il dire que la puissance de Dieu n'est pas à l'œuvre dans le monde ? Dimanche dernier, à la journée d'Élikia, nous avons entendu les transformations que Dieu accomplit dans des vies qui avaient commencé dans de très mauvaises conditions. Et j'ai repensé au miracle qu'était la création de cette association. À travers Evie, qui ne pouvait plus travailler à cause de sa mauvaise vue et qui a choisi de se mettre à la disposition du Seigneur en soutenant son amie Hélène, qui avait à cœur de s'occuper des enfants de la rue à Kinshasa. Alors, ça fait penser à ce verset dans Zacharie 7, verset 10, qui parle de ne pas mépriser les petits commencements. Et ça me rappelle aussi le verset de 1 Corinthiens 1, les versets 27 à 29, où Paul dit « Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour faire honte aux sages. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour faire honte à ce qui est fort. Dieu a choisi ce qui est vil dans le monde, ce qu'on méprise, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, de sorte que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. » Jésus est venu nous sauver en venant au monde comme un humain, dans l'humilité d'une famille ordinaire. Il a formé un petit groupe de disciples qui n'étaient pas plus intelligents, plus forts ou plus pieux que les autres. Mais c'est à travers eux qu'il a choisi de révéler le salut au monde. Dieu aime utiliser les petits, les sans-grade, les gens quelconques, pour manifester sa puissance. Dans la Bible, on voit des gens choisis qui disent « Mais comment je peux, moi ? Moïse, le petit David contre Goliath, Gédéon qui dit « Mais moi, je suis le plus jeune de ma famille, je suis le dernier, je suis le plus faible, qu'est-ce que je peux faire ?» Tous des gens qui ne se sentaient pas spécialement qualifiés. Alors, il y a aussi le miracle de l'eau changée en vin à Cana. J'aime beaucoup cette histoire parce qu'elle nous parle du Dieu qui travaille incognito. On a étudié ce texte dans plusieurs groupes d'études bibliques là, de l'Église. Parce que ce jour-là, dans cette histoire, qui a compris qu'il y avait eu un miracle ? Quand on réfléchit, il y avait énormément de monde à cette fête. Il y avait beaucoup, beaucoup d'invités. Dans les mariages orientaux, c'est très large, les invitations. Et presque tout le monde n'y a vu que du feu. Mais d'où sort ce bon vin, là ? Bon, on a pris le bon vin, on ne s'est pas trop posé de questions. Les seuls qui savaient vraiment, c'était les disciples, parce qu'ils étaient proches de Jésus, et c'était les serviteurs, les esclaves. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux ? Ils ont travaillé comme des fous pour remplir d'eau des cruches qui faisaient... Ce n'étaient pas des cruches, c'était des jarres qui contenaient une centaine de litres d'eau chacune. Alors, vous imaginez le travail, ils devaient aller au puits, remplir leur seau, revenir, verser dans la jarre, etc. Et ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Vraiment, qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Pourquoi on nous demande de faire ça ? Ils devaient se dire, mais voilà, un truc bizarre qui se passe. Ils ne comprenaient pas du tout le sens de ce qu'ils faisaient. Et puis, à la fin, ils ont suivi le truc et ils ont vu que c'était devenu du vin, quoi. Un vin extraordinaire. Alors, si tu veux voir des miracles, mets-toi au service de Jésus. Écoute-le et obéis-lui, même si tu ne comprends pas le but de ce qu'il te demande. Donc, dire que à toi la puissance, à Dieu la puissance, signifie que j'abandonne mes prétentions à vouloir contrôler ma vie. Ou encore pire, contrôler celle des autres. Et que je m'en remets à Dieu avec confiance pour tout ce qui ne dépend pas de moi. Mais ça veut dire aussi que je ne vais pas me laisser asservir par une autorité qui prétend régenter ma vie de manière abusive. Alors quand je parle de régenter la vie des autres, des fois il y a des mamans qui aiment bien expliquer à leur garçon de 20 ans tout ce qu'il doit faire, et c'est difficile. Et puis se laisser asservir par une autorité qui me concerne pas en fait. Alors, j'ai entendu parler il n'y a pas longtemps d'un concept, ça s'appelle le TPH, la TPH. C'est Alexandre qui m'a expliqué ça. Alors, TPH, ça veut dire la toute-puissance humaine. Vous savez, des fois, dans les magasins pour touristes, on vend des petites plaques comme ça, humoristiques, avec des petites blagues, des choses comme ça. Et plusieurs fois, j'en ai vu un où c'est règlement. Alors, article 1, le chef a raison. Article 2, même quand le chef a tort, l'article 1 s'applique. Donc, le chef a toujours raison. Alors, je suis sûre que vous avez tous rencontré déjà des gens comme ça. C'est-à-dire une posture intérieure qui consiste à penser qu'on a vraiment toujours raison, qu'on est plus sage que les autres, qu'on comprend mieux que ce qui est bon pour eux, qu'on a tout compris, qu'on peut diriger tout et arriver à ses fins. Donc, on peut parler de personnes tyranniques. Alors, ce n'est pas forcément des gens malveillants. Ce n'est pas forcément des tyrans au sens qu'ils veulent du mal aux autres, pas ça. Mais elles pensent sincèrement qu'elles savent ce qui est bon. Donc, elles vont faire que tout se passe comme elles pensent et elles vont obliger les autres à faire ce qu'eux pensent. Voilà. Et voilà, elles vont pousser jusqu'à ce que les choses se passent comme elles le veulent. Alors, on peut regarder en nous si on n'a pas tous un peu des tendances comme ça. Et puis, on peut aussi dire stop quand les gens sont comme ça avec nous parce qu'ils n'ont pas à être comme ça. Parce que la toute-puissance, elle n'est pas chez l'humain, elle est chez Dieu. Donc, reconnaître que la puissance appartient à Dieu va nous donner la force de résister à ces personnes. Surtout si elles veulent nous pousser dans des choses injustes. Acte 5, 29 nous dit « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Ça, c'est ce que les apôtres ont répondu au Sanhédrin quand ils leur ont dit « Vous ne devez plus parler de Jésus ». Et ils ont dit, bah si, parce qu'on va obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, le fait de reconnaître la puissance, que la puissance est à Dieu, et que c'est lui le roi, en fait, c'est le garant de notre liberté intérieure. Parce qu'il y a des gens qui disent, ni Dieu, ni maître, je veux être libre. Mais en réalité, en faisant ça, ils se mettent sous un autre joug, le joug de leur propre orgueil, ou peut-être d'une addiction ou d'une autre passion. Hein. Et le fait de reconnaître que c'est Dieu le roi et que c'est lui qui a la puissance, ça garantit notre liberté. Le troisième terme, c'est la gloire. Alors ça, c'est déjà plus difficile à comprendre. Dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu s'est manifestée de manière visible dans un nuage, une nuée, au-dessus de la tente de la rencontre dans le désert, puis dans le temple de Jérusalem au moment de sa consécration. Cette présence voilà, lumineuse et fumeuse, voilà, c'est une nuée, hein, elle était tellement, tellement forte que les gens ont dû quitter le temple. Ça écrasait les hommes du sentiment de leur indignité. Et même les prêtres ont été contraints de quitter le bâtiment au moment où cette gloire a envahi le temple. Plusieurs prophètes ont désiré voir la gloire de Dieu, comme Élie par exemple, et en même temps ils la redoutaient. Et Dieu dit, mais vous ne pouvez pas me voir sans mourir. Donc il disait, je vais te montrer ma bonté, ou bien tu me verras que de dos, ou des choses comme ça. Le mot hébraïque qui désigne la gloire, c'est l'idée de poids. C'est l'idée que ça a du poids. Dieu, il a du poids. Ce qu'il dit, ça compte, et sa présence ne passe pas inaperçue. C'est juste le contraire. Dans le psaume 1, on a les méchants qui sont comparés à de la paille que le vent dissipe. Voilà, les méchants, ça veut dire ceux qui ne reconnaissent pas Dieu. Ils deviennent comme de la paille que le vent dissipe. Alors que le juste, il est comparé à un arbre solide qui plonge ses racines dans la terre ferme. Et parce qu'il est habité de ce poids de la présence de Dieu. Les méchants sont comme la paille et les nations, Ésaïe 40, verset 15, les nations sont comme les gouttes qui tombent d'un seau, elles comptent comme la poussière sur une balance. Vous imaginez ça ? Un grain de poussière sur une balance. Devant Dieu, les nations, les empires, les tyrans, tous les pouvoirs humains ne comptent pas plus que ça. Le verset 17 en rajoute en disant « Toutes les nations sont comme rien devant lui, elles comptent moins pour lui que néant et chaos. » Dans le livre de Daniel, au chapitre 5, on a cette histoire étrange du roi Belshazzar, donc un roi perse, je crois, qui, au cours d'un banquet, aperçoit une main qui écrit quelque chose d'inconnu sur le mur. Il est pris de peur. Et finalement, c'est Daniel qui va expliquer ce que veut dire ces mots. Et ces mots veulent dire « compter, compter, peser, diviser ». Et Daniel explique « tu as été pesé et tu as été trouvé trop léger. Et donc, ton royaume va t'être ôté ». Donc, cette gloire de Dieu, on peut dire quelque chose comme c'est sa présence, en fait. La gloire de Dieu, c'est sa présence qui prend toute la place, en fait. Donc, il y a du poids. Et comme la royauté, la gloire fait partie de l'essence de Dieu. C'est-à-dire, c'est en lui, c'est pas quelque chose qu'on lui donne, c'est quelque chose qui est là. Mais le mot gloire, il a aussi un deuxième sens, c'est le mot de louange. Quand on dit que Dieu est le seul digne de gloire, ça veut dire que nous, on doit lui rendre gloire, mais même si nous, on ne le fait pas, la gloire de Dieu, elle est quand même là. Dieu est digne de louange, c'est le seul qu'il est, et il est jaloux de sa gloire. Ésaïe 48, 11 dit « Comment me laisserai-je profaner ? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Et dans les Actes, au chapitre 12, verset 23, il y a un drôle d'épisode qui nous est relaté. Le roi Hérode harangue la foule et avec des paroles éblouissantes Et à la fin, les gens s'exclament en disant « Ah, voilà, ça, c'est des paroles d'un Dieu et non d'un homme. » Et dans la minute, il est frappé, on ne sait pas quoi, on dit un ver qui mange ses intestins et il meurt, là, comme ça, en scène, quoi. Et il paraît que cet épisode est repris par le... Enfin, il a été corroboré par les écrits de Flavius Josèphe qui raconte qu'effectivement, Hérode est mort bizarrement, comme ça, subitement, pendant un discours. Donc Dieu, et donc la Bible précise, parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu. Voilà. Donc la gloire, c'est la louange. Et dans ce sens-là, on peut aussi donner gloire à un homme. Hein, on peut louer des personnes, leur dire « Ah, bravo, c'est bien ce que tu as fait, voilà. Hein. » Mais donc celle qui est donnée par... Donc la seule gloire qui compte, c'est celle qui est donnée par Dieu. Hein, c'est Dieu qui dit « Ce que tu as fait, c'est bien. » Et pas par les hommes. En Jean 5, verset 44, Jésus reproche aux pharisiens de tirer leur gloire les uns des autres et non de Dieu seul. Ils attendent que les autres leur disent « Ah oui, c'est bien ce que tu as fait, voilà. » La Bible nous enseigne à rester humble, à ne pas nous enorgueillir, même de nos réussites, même des choses qu'on pourrait dire « Bah oui, c'est moi qui réussis ça, c'est moi qui ai travaillé, c'est moi qui réussis. » 1 Corinthiens 4, 7 nous dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier, comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Même quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour réussir à quelque chose, ben il peut reconnaître que cette force qu'il a eue, c'est Dieu qui lui a donné. Ou l'intelligence, c'est Dieu qui lui a donné. Ou les moyens financiers, c'est aussi de Dieu qui les a. Personne ne peut dire qu'il s'est fait tout seul. Jean-Denis et moi, on est devenus grands-parents il y a quelques semaines. Et je trouve ça très drôle parce que les gens viennent nous dire « Ah, félicitations !» Alors je dis « Bah, félicitations de quoi ?» Moi, j'ai rien fait, hein. Rien fait du tout pour devenir grand-mère. Hein. Alors on me dit « Bah si, quand même, t'as élevé Pauline, quoi !» Je dis « Ok, on a élevé Pauline. » Mais ouais, la petite fille, on y est vraiment pour rien, quoi. 1 Corinthiens 1, 31 nous dit « Que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur. » En reprenant un verset d'Ésaïe qui nous disait ben, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie de me connaître, moi, l'Éternel. Voilà. Donc, cette reconnaissance de la gloire qui appartient à Dieu, elle nous invite à renoncer à chercher les honneurs et les félicitations des hommes, à chercher à plaire à Dieu avant tout. Alors là, on peut un peu réfléchir, parce que au fond de nous, on a tous besoin de reconnaissance. Les enfants, ils ont fait un beau dessin, ils viennent le montrer à la maman. Ils ont envie qu'on dise « Ah, il est beau ton dessin !» C'est tout à fait normal. Nos jeunes, ils sont contents quand on leur félicite parce qu'ils ont réussi leur bac ou qu'ils ont passé leur permis ou qu'ils ont réussi une performance sportive ou des choses comme ça. On a besoin de se sentir comme ça, rassuré intérieurement. Et il y a toute une éducation chrétienne qui était donnée dans les temps passés, là, enfin, surtout quand j'étais petite. Hein. On ne voulait pas trop féliciter les enfants parce qu'on avait peur qu'ils deviennent orgueilleux. Donc on ne veut pas leur donner la grosse tête, alors on ne les félicite pas trop, et du coup on ne les encourageait pas beaucoup. Mais du coup, le résultat de ça, c'est qu'au lieu que les gens grandissent en maturité, il manque quelque chose à l'intérieur, et ça donne des adultes qui vont, eux, chercher à se mettre en avant, chercher la lumière, chercher à être reconnus, hein, chercher à pousser des coudes pour dire « Et moi, vous avez vu ce que je fais ?» Donc là aussi, je suis sûre que vous avez tous des gens en tête, là, que vous connaissez, des gens qui cherchent à attirer l'attention sur eux parce qu'il y a quelque chose qui manque à l'intérieur. Donc, l'humilité, c'est pas dire « je vaux rien, je suis rien, j'ai pas d'importance ». L'humilité, c'est dire « mon importance, c'est Dieu qui me la donne et je reconnais son autorité sur moi ». La fin de la doxologie, là, c'est « au siècle des siècles ». Alors, c'est un peu bizarre comme tournure. Hein. En fait, c'est une expression hébraïque qui signifie « pour l'éternité ». On a aussi le livre, par exemple, le Cantique des Cantiques. Ça veut dire le plus beau des cantiques. Donc au siècle des siècles, c'est plus loin que tous les siècles. Donc c'est pour l'éternité. Bon, l'éternité, c'est un concept qu'on n'arrive pas à concevoir avec nos têtes, qui nous donne le vertige, mais qui nous aide aussi à relativiser nos souffrances ou les injustices que nous pouvons subir. Pauline m'a raconté l'histoire de quelqu'un, qui est d'un homme aveugle, qui est dans une église, et le pasteur parlait avec cet homme et il avait pitié de lui. Il disait, mais ça doit quand même être dur ce que tu vis, parce que voilà, tu t'es limité dans beaucoup de choses, tu ne peux pas profiter de la vie comme nous autres, enfin, c'est compliqué quand même. Et cet aveugle lui a dit, tu sais, à côté de l'éternité, la durée de ma vie, c'est à peu près 0%. Et je sais que quand je vais mourir, je verrai Jésus face à face comme toi. Alors, c'est pas bien grave tout ça. Alors, on peut prendre ça aussi de se dire, allez, on vise l'éternité, on ne vise pas juste notre vie là sur terre. Amen, à la fin, c'est pour dire, je suis d'accord avec ça. C'est le poids de l'affirmation, hein, ainsi soit-il. Voilà. Alors, on arrive à la fin de toute cette méditation sur le Notre Père qui m'a occupée pendant une bonne année. Donc, le Notre Père, une prière qui a traversé les siècles, une prière révolutionnaire à bien des égards, qui nous place devant notre finitude, devant l'immensité de la grandeur et de la sagesse divine. Elle nous invite à lever les yeux de nos petites vies et de nos visions étriquées pour regarder avec confiance au Dieu qui peut tout pour nous et qui prend vraiment soin de nous. Elle nous invite aussi à renoncer à notre désir d'indépendance en reconnaissant Dieu comme roi, à notre désir de contrôle, c'est Dieu qui a la puissance, et à notre besoin d'être glorifié, d'être mis en avant. La gloire appartient à Dieu. Elle nous fait comprendre que nous faisons partie d'un plan qui nous dépasse complètement. Alors la question, c'est est-ce que nous voulons chacun entrer dans le projet que Dieu a pour nous et entrer dans cette communion avec lui? On va juste prendre un petit moment de silence et après on va enchaîner avec la Sainte Cène.